des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique jardin dans Brin de Jardin, donc en compagnie de Romain Jacquier-Laforge qui est jardinier. Bonjour Romain.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui des haies vives. Alors pour commencer Romain, qu'est-ce qu'une haie vive ?
Alors une haie vive, c'est une haie mélangée. C'est une haie où on va retrouver plusieurs essences, plusieurs espèces différentes. Ça a pas mal d'avantages. Déjà tout simplement, c'est du bon sens, c'est que quand on a des espèces mélangées, si un jour il y a un problème de maladie ou de choses comme ça qui arrive sur une espèce, vous avez un trou dans votre haie, c'est déjà gênant éventuellement, enfin ça dépend où vous êtes placé, hein, parce que des fois on n'a même pas besoin de faire de haie d'ailleurs, il y a pas mal d'endroits dans le Vercors où les gens n'ont pas de haie, et c'est très très bien aussi, je trouve ça très joli quand c'est ouvert. Voilà. Mais il y a aussi bien sûr des avantages à avoir des haies quand même. Donc l'avantage donc d'être mélangé, c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Quand oui. J'étais jeune, moi, je suis rentré en jardinerie, et en fait, on en avait la nouveauté du cyprès de Leyland. Et le cyprès de Leyland, c'était la mode fin 90, voilà. Et en fait, c'était le truc génial qui poussait super bien, qui avait plein d'avantages, qui était surtout très résistant aux maladies par rapport aux tuyas à l'époque. Et en fait, avec le recul, on se rend compte que voilà, ça marche pas en fait, hein, tout simplement. Donc, il faut se méfier des panacées universelles. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui mettent des photinias, des choses comme ça, des Elaeagnus. C'est très très joli. Ça a des avantages, des inconvénients. On pourra en parler après. Mais on voit des fois quand même des problèmes sur certaines, sur du photinia, sur des Elaeagnus, même si c'est si costaud que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger votre haie. Vous serez beaucoup plus tranquille.
Oui, on a pu avoir le problème également sur des haies de buis qui se sont retrouvées tout d'un coup décimées.
Exactement. Moi, je connaissais des pépiniéristes qui avaient des kilomètres de buis, des kilomètres en pépinière de buis. Et en fait, du jour au lendemain, leurs buis sont invendables. Enfin, voilà. Donc, quand on met tous ces œufs dans le même panier, un jour, on risque de pleurer. Alors, une haie vive, ça se fait vraiment individuellement quelque part. C'est vrai que souvent les gens viennent nous voir avec des ils veulent ça. Mais en fait, il y a tellement de possibilités, on se rend pas compte du choix de végétaux qu'on peut mettre. Alors, il va falloir quand même déjà revenir sur terre et donc se dire j'habite à un endroit. Donc l'endroit, c'est l'altitude, c'est le froid, faut faire attention. Faire une haie vive avec que des variétés, par exemple, ce serait pas vraiment d'ailleurs une haie vive, mais si vous me dites moi je veux une haie de laurier rose, c'est bien joli quand on habite à Nîmes, Faut savoir que ça dépend déjà des variétés de laurier rose, la résistance au froid. Mais après une année catastrophique où il fait très très froid. Moi j'ai eu, quand j'étais petit, j'habitais à Montélimar et je me rappelle de l'hiver 85, l'eau avait gelé dans la canalisation à Montélimar. Le laurier rose était mort en centre-ville. Donc voilà, c'est pas parce que on a l'impression, et c'est une impression qui est réelle d'ailleurs, qui fait plus chaud, qu'on peut pas avoir de coup de Trafalgar de temps en temps. Donc faites bien attention à ça. Donc il faut vraiment faire attention à choisir des plantes qui sont adaptées à son altitude, au froid qu'il fait à peu près, et pas au froid qu'on a l'impression d'avoir que depuis 12 ans, quoi. Parce que les gens qui travaillent pas dehors se rendent pas toujours compte qu'il fait vraiment froid. Et depuis 2012, il n'y a pas fait vraiment froid, mais il faut pas oublier qu'on est dans le Royan ou dans le Vercors. Donc après, il faut faire attention aussi au niveau du sol, si c'est sec, si c'est humide. Alors, il y a beaucoup de plantes qui s'adaptent très très bien d'ailleurs en sol sec. Après, il faut juste les choisir les bonnes. En sol très humide, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on en trouve, il n'y a pas de souci aussi. Donc voilà, il faut faire bien attention à ça. Et puis après, éventuellement, mais ça se joue un petit peu c'est sur le pH du sol. Alors, si le sol est acide ou calcaire. Alors, en règle générale, les sols chez nous, il n'y a pas de soit très très calcaire, soit très très acide. Donc, et puis, de toute façon, il y a un panel de plantes qui est assez large, qui s'adapte quand même un petit peu à tout ce genre de choses. Donc voilà. En tout cas, déjà, il faut vraiment prendre ça en compte. Alors après, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est problème éventuellement de voisinage, de choses comme ça. On peut avoir une route, on peut avoir un voisin avec la baie vitrée du voisin qui donne pile chez vous sur votre terrasse. Donc après, une haie, ça se construit différemment. On va mettre éventuellement peut-être plus de persistants à cet endroit-là, parce qu'il faut penser aussi qu'une haie vive, c'est une haie mélangée en essence, mais c'est aussi une haie qui peut être bien sûr mélangée avec du caduc et du persistant. Et c'est là où c'est d'ailleurs le plus intéressant, puisqu'en fait, les caducs vont avoir souvent des floraisons beaucoup plus intéressantes, ou des colorations d'automne, bien sûr. Et donc ça permet de jouer sur l'année, quoi, d'avoir une haie qui vive finalement. Et donc il y a une règle générale qui, en gros, on va mettre un tiers de persistant, deux tiers de caduc. D'autres personnes font exactement l'inverse, puis il y en a qui veulent des variés que de persistant, il faut bien prendre en compte donc après ces problématiques donc de floraison, de choses comme ça. Alors L'avantage, hein, ça va être aussi tout simplement qu'on peut se nourrir un peu nous, hein, parce que dans une haie vive, on peut même mettre, alors si on n'a pas vraiment de vis-à-vis, on peut même mettre du groseillier, du cassissier, enfin voilà, des choses comme ça. On peut mettre des amélanchiers. La mélanchier, c'est un arbuste qui est assez incroyable. Alors, la mélanchier, il existe à l'état naturel chez nous. Il n'est pas ouf, on va dire, quelque part, comme dirait ma fille. C'est la mélanchier ovalis. Il pousse dans un endroit très 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 sec. C'est un arbuste incroyable, mais qui donne des fruits qui sont assez peu intéressant. Par contre, vous avez la mélanchier du Canada qui, lui, va donner des fruits qui sont très très bons, une belle floraison blanche au printemps, donc des fruits qui sont bons à manger à peu près au mois de juin, et puis une très belle coloration d'automne. Donc vous voyez, en plus, on peut jouer sur voilà, toute une longueur de saison, quoi. Donc ça, ça va nous nourrir nous, ça va nourrir les oiseaux éventuellement, puis après aussi, il faut penser aux abeilles. Ne serait-ce, tiens, pour un persistant, le coton aster. Coton aster, c'est un arbuste qui ne pique pas, c'est pas le pyracantha, mais qui fait des baies rouges ou un peu oranges en automne. Alors le plus intéressant, c'est peut-être le lacteus, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coton aster, donc voilà. Mais le lacteus en arbustif, c'est un beau bébé déjà, il fait en gros 3 par 3 mètres, hein, 3 mètres par 3. Il peut devenir même légèrement plus gros, donc il va falloir le contenir, mais lui, il fait des gros paquets de baies rouges en hiver, je pense que vous les verrez bientôt. C'est très très décoratif, et au printemps, la floraison, qui est assez discrète mais blanche quand même, assez intéressante, attire beaucoup les abeilles. C'est une plante mellifère, donc voilà, on peut aussi jouer bien sûr là-dessus. Donc voilà, faut pas hésiter, hein. En plus, on va avoir des plantes qui vont fleurir très précocement, même en hiver, hein. On va avoir des viornes, certaines viornes. Je pensais notamment à la viorne Bonnatinsée Charles Lamont, par exemple, qui est une viorne qui va fleurir l'hiver, ou des Mahonia, Winterson, ou de choses comme ça. Puis après, au printemps, ben, bien sûr, on va attaquer avec les Forsythia, les Cognassia à fleurs, ou pommiers du Japon, ça dépend après comment on les appelle. Après, bien sûr, on va enquiller sur tellement de plein de choses, mais bon, je vais dire deux, trois trucs. Les boules de neige, les seringas, les lilas. Et puis après, sur le printemps, fin de printemps, les végélias. Vous allez après courir sur l'été, donc là, avec des millepertuis, des lagerstroïmes, il y a des lilas des Indes, éventuellement laurier rose, bien sûr. Voilà, et d'autres choses comme ça. Et puis après, arriver sur l'automne, alors plutôt là, avec vraiment, alors les fins de floraison d'été, bien sûr, mais après, les feuillages d'automne. Alors, en beau feuillage d'automne, bon, je vous parlais de la mélanchier, on peut parler aussi des arbres à perruque, les Cotinus coccigria, tellement de choses, en fait, c'est un peu incroyable. Certains berbéris qui ont des feuillages pourpres aussi à l'année, mais qui deviennent encore plus jolis des fois à l'automne, enfin voilà. Et donc vous avez un panel de plantes qui peut vraiment faire quelque chose de très très beau. Il faut pas hésiter après, quand on veut créer sa haie, soit à faire quelque chose d'assez ordonné finalement, si on a envie, et donc de faire, par exemple, de prendre 4-5 plantes et de les reporter. Hein, comme ça, si vous voulez, ça vous fait quelque chose de plus homogène, et pour certaines personnes qui ont un peu du mal avec quelque chose de trop fouillis. Et sinon, on peut vraiment alterner une plante avec une autre et faire des fois 20-30 mètres de haie sans avoir une seule plante qui revienne dans la haie.
Et comment choisir parmi toutes les essences dont vous nous parlez? Est-ce qu'on demande conseil? Est-ce qu'on peut éventuellement regarder ce qui fonctionne chez ses voisins?
Ah, bien sûr. Alors, chez le voisin, en fait, c'est vraiment une bonne idée, parce que des fois, les gens demandent des choses, et c'est difficile, en fait. Ils demandent des choses des fois un peu exotiques à certains endroits. S'il n'y a pas chez le voisin, c'est peut-être pas pour rien. Et en même temps, des fois, c'est un peu dommage, parce que par exemple, le forsythia, un forsythia, c'est joli. Je vais pas dire le contraire. Ça fleurit jaune au printemps, voilà. Mais par exemple, un petit Osmanthus burkwoodi ou autre chose, voilà, qui va fleurir en même temps, ou peuvent vraiment amener quelque chose de différent, quoi. Un Osmanthus burkwoodi, par exemple, c'est une plante persistante qui va monter à 1,50 m, 2 m, qui va faire à peu près autant de large, qui a un petit feuillage vert, voilà, assez franc, et qui, quand il va fleurir au printemps, alors ça fleurit pas très longtemps, hein, les floraisons de printemps, c'est jamais très long, c'est en gros, c'est 15 jours, 3 semaines maximum, va s'en très très bon. Donc en fait, souvent on va mettre comme le voisin, parce qu'on voit aussi ce qu'il a, mais on passe à côté d'autres choses. Alors bien sûr, par contre, il y a toujours quelque chose qui rentre en compte aussi, c'est le budget. Et c'est vrai qu'il y a des plantes qui des fois sont magnifiques, mais peuvent être aussi déjà très difficiles à trouver, et puis après qui peuvent coûter aussi beaucoup plus cher. C'est vrai qu'un forsythia en prix d'achat, c'est pas énorme, alors que si vous partez sur, je vous parlais du Bonnatinsée Charles Lamont tout à l'heure, ou d'autres, ben oui, là effectivement, pour la même taille de plante, ça va être peut-être le double en niveau prix. Donc ça rentre vraiment en compte aussi quand on fait une haie, parce qu'on a tous un budget à ne pas dépasser, voilà.
Et tout dépend de la longueur de l'ail. Également.
Exactement.
Donc, bien prendre son temps, si je comprends bien, pour choisir les différentes essences et composer sa haie. Bien prendre son temps, mais pas trop, parce que c'est bientôt le moment de les planter.
Ça va bientôt être le moment. C'est mieux maintenant à l'automne qu'au printemps. Sauf pour les plantes qui craignent le froid. Si vous voulez planter des plantes un peu moins hésitantes au froid, alors par exemple, on va dire des lauriers roses, ou alors suivant toujours la variété du laurier rose, ou alors après, je pense aux mimosas, attendez plutôt le début du printemps. Voilà, planter à l'automne, c'est dangereux pour ce style de plante.
Pour les autres, c'est le moment.
Les autres, c'est bien mieux de le faire maintenant.
Voilà, donc pour composer votre haie vive et les planter donc en ce mois d'octobre. Merci beaucoup Romain pour toutes les informations que vous avez partagées aujourd'hui avec nos auditrices et nos auditeurs.
Merci.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites ou donc par message vocal, par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.